Cool! Épisode 1 du, de la série « En route vers Ottawa » qu'on va appeler. Donc, c'est de documenter mon parcours vers le Marathon d'Ottawa qui a lieu, je pense, la fin de semaine du 20 ou 22 mai. Je me rappelle plus exactement c'est quoi la date, là, mais c'est ça. Aujourd'hui, on est le 9 janvier. Donc, à peu près à 20 semaines, à peu près 5 mois là, du Marathon d'Ottawa. Et j'étais avec Charles Castonguay qui va m'accompagner à travers ce parcours-là. Puis on est au Crew Run Club. Je pense que j'en ai déjà parlé sur le Upica podcast du Crew. Je me rappelle pas, on en a déjà.
Ouais, tu n'avais déjà parlé dans une introduction.
Okay. Ben, en tout cas, là, dans le fond, le Crew Run Club, rapidement, c'est un centre d'entraînement intérieur de course à pied avec des tapis. Il y a des cours de groupe que vous pouvez faire avec des entraînements programmés avec des coachs sur place. Charles, il offre. Vous pouvez vous procurer un test de lactate, des tests de VMA, ouais, pour être capable d'évaluer vos zones d'entraînement. Puis justement, à partir de ça, on va en parler aujourd'hui de tests de lactate, d'ailleurs, parce que pour établir les bonnes bases de ce programme-là vers Ottawa, on voulait prendre les valeurs de mon test de lactate au début du programme, puis voir comment ça se comparait vers la fin du programme. Donc là, on vient de faire ça. Charles, qu'est-ce que vous offrez aussi au crew?
On offre aussi des plans de musculation génériques, des plans d'entraînement génériques aussi, même un coaching personnalisé, moyennant un frais par mois.
Ouais.
Sinon, il y a des évaluations fonctionnelles. C'est quoi l'évaluation fonctionnelle? En fond, c'est des tests qu'on fait, qui sont répertoriés dans la littérature, dans la science musculo-squelettique, pour déceler un peu les débalancements ou les asymétries articulaires au niveau mobilité, stabilité. Donc, si tu as un gros antécédent de blessure, tu te blesses tout le temps. Des fois, il y a peut-être des thérapeutes ou des professionnels de la santé qui n'ont pas nécessairement fait l'examen total. Puis des fois, tu as mal au pied, mais ça peut venir d'une autre partie de ton corps, ça peut venir de ta hanche, ça peut venir de ton dos, de ton thorax même. Fait que nous, on fait l'évaluation complète. Ensuite, on te regarde courir un petit peu, quelques petites recommandations par rapport à ça. Puis on va te proscrire des programmes de correctifs, d'exercices correctifs précis à ta condition, à toi. Même si tu veux faire de la mobilité un peu, on va te dire, ça, tu devrais focusser plus là-dessus. Puis sinon, comme tu as dit, là, des cours de groupe, puis surtout bien du plaisir.
Ouais, exact, c'est ça. C'est la communauté aussi qui est hot, là, tu sais, de venir ici et de s'entraîner. Les entraînements que j'ai fait, du moins depuis que vous êtes ouvert, je suis venu en faire quelques-uns en groupe, puis ça passe tellement vite, man, c'est fou, là.
Ouais, genre, c'est ça, le commentaire qu'on a, puis ça passe vite, c'est motivant, ouais. On met du gros beat, les coachs sont motivants, ils savent ce qu'ils font aussi. Puis, tu sais, t'as pas besoin d'être dans un club nécessairement, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'avoir un horaire fixe absolument, ouais, qu'il faut que tu sois là absolument à telle date avec une heure. Là, tu as des plages horaires. C'est un peu du monde différent, mais ça revient un peu au même. Dans le fond, le monde, il se recôtoie, il se recroise. Fait que là, tu développes une communauté avec ça beaucoup plus élargie.
Ouais.
Puis tu as beaucoup de plages horaires aussi. Puis on a un horaire, mettons, en début de semaine, on fait plus de la vitesse. Vers la fin de la semaine, c'est du tempo, du fartlek. Fait que tu sais, tu peux même faire tes deux intervalles ici par semaine.
Ouais,
si tu fais deux intervalles, si tu en fais qu'une, tu peux choisir lequel tu veux. Mais si tu en fais deux, tu peux y aller avec ça aussi.
Puis si vous nous écoutez, puis tu sais, vous êtes soit débutant en course à pied, vous commencez à vous y intéresser, vous pensez peut-être que c'est ces choses-là qu'on parle, là, de tests de lactate, tests de VMA, évaluation biomécanique, évaluation de faiblesse musculaire, ces choses-là, vous pensez que ça s'applique juste aux pros, aux élites, ben c'est le contraire dans le fond, tu sais, ça s'applique principalement, ou du moins c'est pertinent principalement pour quelqu'un qui commence puis qui veut s'entraîner comme du monde puis le faire bien dans le fond.
Exactement, parce que les pros souvent ils connaissent leur perception d'effort, ils connaissent leur pace, ils connaissent leur fréquence cardiaque, c'est quoi leur zone. Un débutant ou un intermédiaire qui a jamais vraiment en fait les tests, ben il n'y a pas vraiment d'idée à quoi ça ressemble ça. Puis c'est vraiment un bon guideline justement pour un débutant à savoir c'est quoi ton baseline, c'est de où qu'on part. Puis c'est sûr que si t'es débutant, ça va évoluer dans le temps, mais en dedans d'un an, ça va pas mal rester les mêmes paramètres. Puis comme on en discutait tantôt, si on dit que ton premier seuil est à 150 puis ton deuxième est à 180, ben dans le temps, ils vont bouger un petit peu parce que, ouais, tu sais, on vieillit, bon, la fréquence cardiaque maximale descend, mais tu sais, dans une plage de 5 ans, ça va bouger un petit peu, mais pas tant que ça. C'est plus les vitesses à laquelle tu vas assez fréquences cardiaques-là qui vont, ouais, à s'améliorer, c'est ce qu'on leur souhaite, évidemment, dans l'entraînement. Ouais. Mais en tout cas, ça va te donner une bonne idée pour les prochaines années de ta vie, on va dire,
ouais.
Au niveau des fréquences cardiaques. Puis ensuite, ben, comme on dit, là, si tu cours de plus en plus, éventuellement, ben, tes pays à ces fréquences cardiaques-là vont diminuer. C'est-à-dire ouais. que tu vas t'améliorer grandement.
Cool. Puis si vous venez au crew, il y a aussi des produits Pika, donc vous pouvez en prendre pour vos entraînements.
La beauté de ça, c'est que c'est gratuit.
C'est gratuit.
T'arrives. C'est sûr, tu peux pas partir avec un sac.
Non.
On s'entend avec
mais
ça.
Mais on remplit ta bouteille.
Tu peux partir avec un sac parce qu'on en vend.
Ouais.
Mais sinon, tu mets ça dans ta bouteille ouais. Et c'est gratuit, exactement.
Tout à fait. Très cool. Donc, ce que je voulais qu'on fasse dans l'épisode 1 du En route vers le marathon d'Ottawa, c'est test de lactate. L'expliquer rapidement parce que j'ai déjà fait un épisode là-dessus là, avec David Yecker. Fait que si vous ne l'avez pas écouté encore, ça fait 2 ans et demi, 3 ans, je pense que j'ai fait ça. Donc, vous pouvez retourner. On explique vraiment c'est quoi un test de lactate, qu'est-ce que la lactate, comment ça fonctionne. Donc là, on ne va pas nécessairement retourner en détail dans tout ça, mais on va regarder mes résultats, on va regarder où est-ce que tout ça se situe pour être capable d'évaluer mes zones. Puis là, on va partir de mon expérience très personnel et unique, mais sachez que si vous avez, vous, soit un objectif au printemps ou quoi que ce soit, mais vous pouvez vous aussi partir de cette expérience personnelle et anecdotique et l'appliquer à vous dans votre vie. T'sais, on va aussi bâtir un genre de squelette de programme d'entraînement. Encore une fois, on ne va pas aller dans le spécifique de session par session, mais si vous voulez follow along, puis vous-même aussi peut-être l'appliquer à votre pratique puis à vos objectifs, ben vous pouvez aussi. Mais encore une fois, on conseille évidemment d'aller voir un entraîneur pour pouvoir faire un programme. Là.
Ouais.
Mais c'est juste si vous avez la curiosité de voir comment ça va se bâtir, mais on va le faire en temps réel. Puis après ça, dans les autres épisodes, ben, on va prendre des genres de checkpoints à où est-ce qu'on est rendu, modifier un petit peu le programme pour le mois qui s'en vient, puis discuter du mois qu'on vient de faire,
exactement,
puis voir comment ça s'enligne pour la suite des choses. Puis en touchant du bois, que ce soit une préparation de marathon
faille.
Sans faille et sans blessure, en fait,
blessure.
C'est surtout ça. Cool, donc... Le test de lactate, aujourd'hui, au jour 1, appelons ça jour 1 de mon de cette préparation-là, comment ça s'est passé, comment ça a fonctionné, on est parti de où, puis je te laisse un peu.
Yes, mais dans le fond, le test de lactate qu'on fait ici au crew, c'est des paliers progressifs avec des petites pauses où on permet à la personne justement de débarquer, prendre le lactate, enregistrer les fréquences cardiaques, la perception d'effort, puis continuer. Puis justement, tu dis que tu en avais fait un avec David Yecker,
ouais.
Tu m'avais dit un petit peu les chiffres pendant que tu le faisais, puis ben, ça correspond bien. Moi puis David, on a la même philosophie là, sur qu'est-ce que devrait être les zones, puis
ouais.
les seuils, etc. Fait que ça correspond pas mal à ce qu'il t'avait donné dans le passé.
Ouais.
Sauf que là, il y a une grosse amélioration.
Grosse amélioration. Parce que dans le fond, ce qui correspond, c'est les zones en lien avec le lactate et les fréquences cardiaques.
Exactement.
Qui sont correspondants, dans le fond.
Exactement. Fait qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait les paliers progressifs. À chaque fois, on va noter ces augmentations-là de fréquences cardiaques, de lactate. Puis à partir de là, on va être capable de déterminer tes deux seuils, soit le seuil aérobique. Le seuil aérobique, c'est quoi? C'est dans la vie, mettons, tu fais de la zone 1, etc. Puis la plupart du temps, on carbure un petit peu plus sur les lipides.
Ouais.
Tu sais, pas beaucoup de consommation de glucides, etc. Et plus on va augmenter dans l'effort, et là, la glycolyse qu'on appelle va embarquer un petit peu plus. Puis c'est principalement ça qui va causer l'augmentation du lactate. Et plus la glycolyse est intense, ben plus l'augmentation du lactate va être intense. Fait que si on fait de la zone 1, on veut essayer d'éviter ça parce que...
Ouais.
Si la glycolyse augmente, l'effort augmente, puis là, tu viens taxer un petit peu ton corps, puis là, tu tombes dans des zones que ça prend de la récupération
ouais.
quand même assez prolongée après. Puis là, dans le fond, le seuil aérobique, c'est on veut remarquer justement où est le point où la glycolyse ou le système anaérobique va commencer à se pointer un peu le nez. Puis toi, ben justement, on l'a déterminé assez avec brio aujourd'hui, ça a été assez évident. Et le deuxième point, ben là, ton système anaérobique, ta glycolyse est un petit peu plus impliqué. Et là, il y a un point là, où il y a vraiment une augmentation exponentielle du lactate. Souvent, c'est autour de 4 millimoles selon la littérature, mais là, toi, on a estimé que c'est un peu plus bas que ça, justement, parce que les athlètes en endurance pure, c'est souvent un peu plus bas que ça.
Ouais.
Et là, ben, c'est un peu insurmontable, dans le sens que si tu passes ce point-là, là puis tu restes un petit peu trop longtemps, ben il va falloir que tu prennes une longue pause. Puis on en parlera tantôt, mais on a vu qu'avec la longue pause, justement, tu sais, ça redescend. Mais après ça, tu accumules de la fatigue musculaire, la fatigue neurale. Puis là, ben, c'est tough de reproduire un effort qui est trop.
Si vous nous écoutez, vous dites c'est quoi le lactate? Je me rappelle que quand j'avais fait le test avec David, David il avait dit pour éviter de rentrer dans trop le spécifique ou mêler les gens sur qu'est-ce que c'est. On peut imaginer que c'est de la fatigue musculaire. Dans le
exactement, exactement.
Fait que tout ce qui est en bas de ce que tu dis comme étant le seuil aérobie.
Là, on peut parler du 2 millimoles. 2 millimoles si on est très à peu près, ouais.
Si on est général, mais si vous voulez avoir précisément, vous pouvez faire un test de lactate.
Exactement.
Comme je viens de faire. Mais tout ce qui est avant ça, dans le fond, c'est que la fatigue musculaire ne s'accumule pas. Après ça, c'est qu'elle commence à s'accumuler. Et le point que tu parles de non-retour, c'est que là, tu dépasses le moment où est-ce que le corps est capable de l'évacuer à la même vitesse que s'accumule. Et là, ça fait juste partir en couille.
Exactement. Puis là, tu passes à ce point-là, tu tombes dans les zones de VO2 max, de vitesse critique qu'on appelle, puis tu vas être capable de toffer un certain temps là. Tu peux toffer 20, dépendamment t'es où après ce point-là. Si t'es juste passé un petit peu, c'est peut-être un 20 minutes, mais si t'es pas mal plus loin que ce point-là, c'est peut-être un 5 VO2 max, justement, tu sais, 5-6 minutes. Puis tu sais, justement, le lactate, on pense que c'est un déchet en tant que tel, mais c'est pas vraiment vrai parce que le lactate, ton corps le réutilise aussi. Ouais. C'est un bon système aérobique, il va le prendre puis il va l'utiliser en énergie. Souvent, c'est les ions H+, qu'on dit, qui viennent avec le lactate, la production de lactate, qui augmente l'acidité du temps. Puis là, à un moment donné, quand ton sang il devient trop acide puis que ton corps n'est pas capable de recycler justement ça, de l'utiliser en énergie, ben là, ton sang...
C'est là que ça part.
C'est ça,
là,
ça part en couille. Puis c'est top.
Puis lorsqu'on prend, par exemple, ces seuils-là, le seuil aérobie et le seuil anaérobie, donc LT1, LT2, lactate threshold, que certains disent, ça nous permet aussi d'établir le système sur 5 zones.
Exactement.
Le fameux système sur 5 zones. Fait que, corrige-moi si je me trompe, pour essayer de le vulgariser le plus possible. La zone 1, c'est tout ce qui est avant le lactate threshold 1, fait que le seuil aérobie. La zone 2, c'est pas mal autour du seuil aérobie, à quoi tu disais 5 battements?
Moi, j'aime bien donner la plage de 10 battements à peu près pour être avoir une plage qui est un peu plus grande, mais c'est ça, à peu près.
Après ça, la zone 3, c'est entre les deux seuils. Zone 4, c'est autour du seuil anaérobie. C'est ça, LT2. Du LT2. Et la zone 5, c'est en haut de ça.
Exactement.
En mode VO2.
Là. Si vous êtes des cyclistes, des fois, ils vont rajouter des zones. Ouais. Fait que, mettons, tu as la zone 5, que ça peut être entre le deuxième seuil puis ce qu'on appelle le VO2 max. Ouais. Fait qu'on appelle ça la vitesse critique. Normalement, c'est des temps que tu peux tenir, mettons, du 20, du 40 minutes. Là. Parce que le seuil anaérobique, le LT2, normalement, c'est environ une heure autour d'eux, dépendamment de ton état d'entraînement. Puis après ça, c'est ça. Là, tu rajoutes des zones. Ça devient un peu compliqué si t'es à 8 zones.
Parce que moi,
zones,
j'ai commencé à parler en 3 zones.
Ouais, exactement.
Puis j'ai vraiment réalisé que c'était pas assez.
Ouais, exactement.
Mais 5 zones, je pense que c'est vraiment bon.
Ouais.
On est capable de parler.
Honnêtement, si t'es très débutant, je pense que le 3 zones est bon.
Ouais.
Mais plus tu vas avancer, plus tu vas comprendre les fines comment je pourrais dire, les fines différences entre ça.
Mais on va en parler tantôt justement de ça parce que c'est donc tombons dans mes résultats puis où est-ce qu'on en est à cette étape-ci là.
Fait que dans le fond ce qu'on a déterminé que dans le fond ça allait super bien dans le test t'as vraiment fait un gros bond en avant. Je pense que tu as fini au palier de 20 km/h, ce qui correspond à 3 flats du kilo. Il n'y a pas beaucoup de gens nécessairement qui vont se rendre là, fait que c'est vraiment, vraiment excellent.
C'est bon, ça part bien.
Puis ton premier seuil, ce qu'on a déterminé, dans le fond, on commence le test un petit peu plus haut en lactate. Souvent, ça va redescendre quand on tombe dans le système aérobique qui est activé. Fait que toi, ton plus bas, c'était 1,2. Puis là, tranquillement, ça, c'était ton plus bas, c'était environ à 12,5 km/h. Puis ensuite, tu as commencé à réaugmenter, de façon non significative. Et la première augmentation significative arrive justement autour du 2 millimoles. Et ça, c'est ton premier seuil aérobie, qu'on va dire. Donc, si on dit exactement le chiffre, mais c'est variable selon la journée, on va dire ça serait du 15,4, 15,3 km/h.
Fait que ça en termes de pace, on parle de quoi?
Ça serait du 3,30... attends, je veux dire ça... je peux te le calculer exactement là, en termes d'allure, là.
Juste pour donner une meilleure idée, parce que lors de mon premier test, on parlait de ça qui était autour de 4,45.
Ben là, tu vois, c'est du 4 flat.
4 flat.
Ouais. Fait que c'est quand même
ouais,
bon. Là.
Ouais.
Fait que si je te l'ai mis dans tes zones, justement, ce qui veut dire que ta plus haute zone 2 que je te donnerais nécessairement, ce serait du 4 flat.
Ouais.
Donc là, je t'ai mis une plage autour de 4 flat. Donc, je t'ai mis du 4-10 à 4 flat pour ta zone 2.
Ça, c'est vraiment le, ça, c'est le
seuil aérobie.
Le seuil aérobie.
Zone 2. Puis là, justement, tu sais, ton LT1, il était à 155. Je pense que tu disais que David te l'avait donné.
156.
Ben, c'est ça. Fait que, ouais, on s'entend, c'est un battement. Là. Une journée avant, il t'aurait donné peut-être, ouais, 155. Là, ça aurait été ça. Puis là, je te donne toujours des cibles. Fait que là, dans le fond, je te dis 145 à 155, c'est pas mal ta zone 2.
Ouais.
Si tu veux une cible plus précise, autour de 150, ça va être une bonne zone 2.
Ouais.
4-10 à 4 du kilo. Et à partir de là, moi, je vais aller voir tes valeurs les plus basses dans ton test, puis je vais pouvoir extrapoler aussi ta zone 1 optimale, ça se trouve à être quoi. Donc là, je te l'ai mis entre 5 puis 4.30.
Ouais.
4.30, c'est quand même un bon jog,
ouais,
quand même vite,
ouais,
mais théoriquement, selon ce qu'on voit là, t'accumules pas, t'es au plus bas à,
ouais,
4.30 même.
Ouais.
Fait que je te permettrais d'y aller, sauf que j'aimerais ça que tu jogues des fois à 4.45 puis 5 flat.
Ouais, ouais, c'est ça,
juste
exact,
pour le volume total. Comme on disait tantôt, même que si j'aurais été un petit peu, comment je pourrais dire, non conservateur, j'aurais pu te le descendre à 4.20, 4.15, ta zone 1,
ouais,
mais le bénéfice physiologique, il est là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Après, c'est les inconvénients que ça va causer au niveau neural et fatigue articulaire, fatigue musculaire. Fait que si tu fais tous tes jogs à 4.15, tu es quasiment proche de ta zone 2. Tu n'es pas en zone 2 théoriquement. Si tes fréquences sont basses, tant mieux lorsque tu es à 4.15, mais c'est que la fatigue à long terme, à moyen terme, je suis pas sûr que tu vas être capable de rentrer tes tempos à la même vitesse. Je suis pas sûr que, ouais, tu vas être capable de rentrer tes VO2 max à la même vitesse. Fait que si tu exagères un petit peu trop le temps ta zone 1, ben ça va peut-être occasionner ça, là, justement.
Ça, c'est une question que j'avais. Puis on peut, étant donné que là, on parle de zone 1, zone 2, là, ouais, on peut peut-être rentrer là-dedans. Puis je t'avais écrit par Messenger pour
ouais, ouais, ouais,
une
ouais,
petite
on
question
parlé
là-dessus, parce que je me disais, on entend parler, quand on a parlé de pyramidal versus polarisé,
avec Félix.
Avec Félix. On arrivait tout le temps au genre de consensus que 80% ou 75%, 75 à 80% de ton volume total devrait se passer en zone 2 ou plus bas.
Ouais.
Il y a quand même une grosse différence entre courir à jogger à 5 du kilo puis courir en zone 2 à 4 du kilo, tu sais, ou à 4.15, mettons 4.10, 4.15. Fait que quand on parle de ce 80%-là, est-ce que on est en zone 1 ou est-ce qu'on est au LT1? Tu sais, parce que le range est vraiment grand, puis j'ai l'impression que si moi, je vais passer 80% de mon temps à 4-10 du kilo, c'est pas la même chose que si je vais passer 80% de mon temps à 5 du kilo. Fait que est-ce que l'idée, c'est de se dire, tu veux passer 80% de ton temps le plus proche possible? Salut, man. Tu veux-tu passer 80% de ton temps le plus proche possible du LT1 si tu es capable de le faire sans te blesser, sans être overtrainé, sans tout, ouais, ça? Ou il y a vraiment, tu veux passer 80% de ton temps en zone 1 sans risquer ces affaires-là? Tu sais?
C'est ça, c'est une bonne subtilité, puis ça dépend des sports, je te dirais. Moi, les athlètes que je coach en physiologie aussi, là, en termes des filières énergétiques, en course à pied, là, je me permet de leur donner, je te dirais, entre 10 et 20% de zone 2. Okay. Puis, tu sais, à LT1, vraiment. Puis ça, c'est
entre
mon opinion à moi. Entre
10 et 20% du 80%.
Du volume
de
total.
Tout, okay, ouais.
Du volume total.
Ouais.
Ce qui correspondrait à un 60 à 70% de zone 1.
De zone
basse.
1.
Ouais. Mettons, pour toi, ça serait 70%, on va dire, de 5, ouais, à 4.30 du kilo. Puis je te donnerais un 10% de 4.10 à 4.30.
Fait que ça serait encore... On ajouterait, dans le fond, une étage à la pyramide.
Exactement.
Fait qu'à place de faire juste la pyramide de 80-15-5, fait que 80% en zone 2, ouais, 15% au threshold, 5% VO2,
excuse-moi, en fait, zone 1, ça serait 80.
Ouais, c'est ça, ouais, 80% ouais, zone 1.
Non, en fait, ça serait 70% en zone 1.
Ouais, 10, non, mais c'est ça, mais là, ouais, ouais, à place de faire juste 3 étages,
ouais,
c'est-à-dire
80%,
15%, 5%, t'en mets 4, c'est-à-dire 60%, 15%, Ou 15-20, okay,
ouais,
je comprends.
Ouais. Puis ça dépend du sport aussi, parce que comme je te dis, la fatigue musculaire, puis la fatigue neuromusculaire, articulaire, peu importe, qui va venir avec la zone 2, sur le coup, souvent, on la sent pas. Mais en course à pied, tu sais, étant donné l'impact, j'aurais tendance à garder ça plus dans le 10%, tu sais, 10-15, ouais, peut-être du 20 pour les expérimenter. Peut-être qu'en cycliste, c'est différent. Tu n'as pas l'impact.
Ouais.
La fatigue musculaire peut être là quand même, articulaire aussi, mais l'impact fait une énorme différence sur la fatigue ressentie puis l'effort ressenti. Fais une heure de course à pied, fais une heure de vélo, tu vas le savoir, ouais, là, directement. Ouais. Puis en cycliste, là, selon ce que je connais, mettons de Clara qui me parle, ouais, de Charles Paquette, etc., ben, eux, ils en font. Puis des podcasts, puis des vidéos que je regarde sur le cyclisme professionnel, ils vont en faire quand même pas mal, la zone 2. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, c'est du 20, du 25, du 30 % même. Puis, étant donné qu'ils ont moins l'impact. Donc, dépendamment de ce qu'on fait comme sport, en natation, j'ai aucune idée. Je ne sais pas si c'est inclus, mais je pense que tu peux te permettre d'aller un petit peu plus.
Ouais.
Mais en course à pied, là, je dirais un 10, c'est pas mal un sweet spot. 20 peut-être, à voir. Je pense que c'est très personnel
dans
à chacun.
Dans tous les cas, il reste un 40 à 50 de zone 1.
Ah, un 50 minimum, je dirais. Ouais. Okay. Minimalement, puis... Encore une fois, là, il faut que tu t'entendes avec ton coach sur c'est quoi la zone 2. Parce qu'il y a des coachs que leur zone 2, la zone 1, c'est comme ta récupération.
C'est ça.
Puis ta zone 2, c'est jusqu'à seuil aérobie.
Ouais.
Moi, j'aime pas ça comme système parce que récupération, c'est comme récupération. Tu sais, c'est de la zone 0.
Ouais.
Tu sais, fais de la course-marche, fais ce que tu veux.
Ouais.
Zone 1, c'est vraiment ton volume. Tu sais, ton volume général, tu le fais là. Puis justement, le sweet spot de zone 2, c'est plus intéressant.
Fait que toi, tu calcules pas quand tu dis zone 1, c'est pas de la récupération.
Ça l'inclut, ta récupération.
Ça l'inclut, ouais.
Mais tu sais, c'est un... Mettons, ta zone 1, comme on dit, toi, c'est 5, 4, 30.
Mais quand tu fais une sortie en zone 1, c'est pas nécessairement une sortie récupération.
Non, exactement. Ça, pour moi,
je
pense que... Justement, on parlait de David. Je pense que David, il a pas mal la même philosophie, ouais, là-dessus. Quand je dis à quelqu'un, fais un recovery run, fais de la course-marche et tout, tu peux... Je te limite, toi, 5, 30, c'est bien, ouais, chill. Mais je compte pas ça dans la... Je compte ça dans la zone 1, mais pour moi, comme ta zone 2, c'est vraiment le sweet spot autour, ouais, de ton seuil. Aérobie. Puis ça, y a plein de philosophies par rapport à ça. Je pense que les zones, t'as des systèmes à 8 zones, t'as des systèmes à 5 zones, puis dans le système à 5 zones, t'as 3-4 philosophies différentes. Fait que ça dépend de ton coach. C'est juste qu'il faut que tu t'entendes avec ton coach, c'est quoi pour
c'est
lui
ça,
la zone
2. C'est ça, parce qu'il faut pas que tu penses que la zone 2, mettons que ton coach, il dit fais une sortie en zone 2, puis que pour lui, la sortie en zone 2, c'est une sortie de tout ce qui est en bas du,
ouais,
en bas du seuil, mais que finalement, toi, tu te le mets au seuil, puis là, tu es en train de faire 80 % de ton training à 4 flats, puis là, tu te pètes complètement. Là.
Exact. Fait que faut vraiment, peu importe ça veut dire quoi ta zone 2, faut juste que tu t'entendes avec ton coach pour,
ouais,
dire, OK, moi, c'est ça ma zone 2, puis le haut de ma zone 2, c'est ça. Fait que peut-être déterminer avec ton coach... C'est quoi le haut de ma zone 2, c'est quoi le bas de ma zone 2? Puis aujourd'hui, tu veux que je sois en bas zone 2 ou en haut,
ouais,
zone 2?
Ouais, ouais,
parce que
ça.
Toi, mettons, si on dit que ta zone 2, c'est tout ce qui est en bas du seuil aérobie, ben ça varie de 5 à 4 plates.
C'est ça.
Fait que c'est quand même
beaucoup,
une grosse
là.
Plage. Ah, ouais. Là. Puis il y a une grosse différence entre courir à 4 ou à 5.
Exact.
Là, fait,
au niveau mécanique et au niveau énergétique aussi.
Dans un système à 5 zones avec la zone 2 à seuil aérobie, moi, je te dirais, ben fais justement un 60, 70% à 5, 4, 30 kilos, justement un 10, 20% à 4, 10, 4. Souvent, on l'inclut dans les longues sorties. C'est intéressant, ça fait passer les longues sorties un peu plus vite.
Ouais.
Puis si tu t'entraînes pour un marathon, pour un demi-marathon, ben ça reproduit un peu l'effort puis la fatigue que tu vas avoir,
ouais,
sur les longues sorties. Puis c'est bien d'en faire des longues à zone 1. Là. Mais tu sais, mettons, tu fais, je sais pas, 3 fois 10 minutes à zone 2 ou 3
ouais.
fois 3 kilos à zone 2, peu importe, dans ta longue, c'est quand même intéressant à faire. Même chose pour le vélo quand tu fais des longues
ouais.
sorties. Là. Voilà.
Cool.
Ça fait le tour de zone 1.
Ouais. Donc après ça, en haut du seuil, dans le fond, entre mes deux seuils, la zone 3 qui se trouve à être à combien?
Dans le fond, là, on a déterminé que ton premier seuil était autour de 2. C'est
ouais.
pas, théoriquement, c'est autour de 2. Des fois, c'est plus bas que ça.
Ouais.
Les athlètes très entraînés, il y en a que c'est 1,5. Toi, je te l'ai mis entre 1,5 puis 2, ton premier seuil. Donc, à partir de 2, on tombe dans la zone de tempo. Et toi, ta zone de tempo là, va aller jusqu'à à peu près 3 millimoles de lactate. Et toi, ça veut dire là, qu'on tombe de 15,3,4 et ça va jusqu'à environ du 17 km/h. Mm-hmm. Donc, c'est quand même c'est quand même assez élevé. Donc, si on met ça en allure, je t'ai extrapolé tes allures, puis ça, je me fie à plusieurs études puis à mon expérience personnelle. Donc, j'extrapole ton allure marathon à 3,48-3,43.
Ouais.
3,48 étant la haute plage et la basse plage. Au début du processus, je te mettrais à 3,48, puis je progresserais vers le 3,43.
Viserais vers 3,43.
Mais par contre, si tu as une bonne journée, ça peut être le 3,43 tout de suite. Ouais. Si tu as une mauvaise journée en mai, puis que tu fais du pace marathon, ben ça va migrer vers le 3,48 finalement. Fait que, ça te donne un barème. Puis à ça, on va associer justement les fréquences cardiaques pour être sûr que tu restes dans ces fréquences cardiaques-là au moins. Si, mettons, je te donne du pace 3,45 de marathon, puis qu'on est supposé être à cible, je sais pas, 160, puis que cette journée-là, à 3,45, tu es à 170, ben, ça veut dire que peut-être qu'on va diminuer à 3,48-3,50. Fait que au moins, tu as plusieurs paramètres. Tu as ta perception d'effort qu'on a déterminé ensemble, tu as ta fréquence cardiaque, puis tu as ton allure.
Ouais.
Puis ces trois paramètres-là, tu es capable de les jauger selon le jour. Si tu as un vent de face, l'allure, elle vient de prendre le bord. Fait que c'est plus fréquence cardiaque.
Perception d'effort. Je comprends. Fait que pour starter le build, ou du moins en ce moment, ce serait ça le pace marathon. Il serait, selon mon état actuel, c'est sûr qu'on évacue tout ce qui est endurance musculaire parce que j'ai pas encore commencé à faire des longues sorties, affaires-là. Mais en ce moment, mon pace marathon, il serait entre 3,45-3,48.
Puis moi, je pense qu'il y a des physiologistes ou des coachs, des fois, qui sont un peu frileux à donner des paces spécifiques, puis ça va être plus des fréquences cardiaques. Moi, j'aime ça me lancer, puis extrapoler, puis le donner. Puis ça m'appartient. Moi, j'aime ça le faire. Si vous voulez pas le faire, c'est bien correct. Les autres, mais moi, j'aime ça quand même aller cibler
ça. Puis ça se trouve à être avec le max heart rate là-dessus à 171?
Dans le fond, ça, c'est ta zone de zone 3 totale, ça serait 156 à 171.
Ouais.
Là, on a ton allure marathon dans cette zone-là, puis ton tempo allure 30 km que moi, j'appelle. Donc, tu as 3,42 à 3,37 pour ton allure tempo 30 km. Fait que si tu es dans la plage marathon, je me situerais plus dans le bas de la plage. Donc 156 à 162, 163.
Ouais.
C'est sûr que si tu fais un marathon, ça va builder, ça va
mais
dériver.
C'est ça, si je fais un marathon, parce que moi, c'est ça, mais je veux dire, tous les marathons que j'ai faits, je commence à courir puis mes pulsations sont dans le piton depuis le kilomètre 3.
Là,
fait que là, je vise le faire plus intelligent que ça parce que j'ai jamais fini fort un marathon. J'ai tout le temps fini quasiment en me rendant de peine et de misère jusqu'au bout. Donc là, ce serait de partir autour de ça.
Exactement.
Autour de 160, mettons.
Ben, entre 160 et 165.
Puis là, ça drift tranquillement.
Exactement.
Mais ton pace reste égal, mais c'est le heart rate qui drift.
Exactement. Fait que, tu sais, mettons j'ai déterminé que ton seuil anaérobique, c'était 175.
Ouais.
C'est sûr que si tu commences ton premier kilo, tu es à 175. Bon, le premier kilo, des fois, on s'excite, ça se peut. Mais si après 5 kilos, tu es encore à 175, je suis désolé, mais il n'y a pas beaucoup de chances que tu finisses fort. Puis probablement que tu vas finir plus ses genoux que finir fort. Ça, c'est mon opinion. Il y a des gens qui auraient une autre opinion, mais moi, je pense pas que ça va être réalisable. Puis moi, je l'expérimente sur moi. Je l'ai expérimenté à Rotterdam. J'utilise ça dans mes courses de sentier. Je sais que je vise 3h30 sur un 42 en sentier. Si je suis à seuil anaérobique, il faut que je descende. Puis c'est comme ça que les gens qui ont couru autour de moi dans les courses, ils me voient regarder ma montre. Je le sais. C'est pas grave si je monte un peu à seuil anaérobique à 175.
Il faut
que je me ramène un peu parce que si je dépasse ça, ça va faire mal.
Mais comme
ça
on parlait tantôt avant de tourner, dans un marathon, t'as pas l'occasion vraiment de ramener ton heart rate. Fait qu'il faut pas que tu le bustes au début parce
Exactement.
Que ramener ça, tu peux pas ralentir de 15 secondes du kilo.
Ben en fait, c'est que si t'as vraiment exagéré au début, il va falloir que tu le fasses.
C'est ça. Mais dans le meilleur des cas, t'exagères pas au début puis t'accélères à fond.
Exact.
C'est comme ça que je voudrais approcher mon marathon.
Il peut y avoir des variations de vitesse. C'est-à-dire que, mettons, tu pars un peu plus vite, tu vas redescendre un peu, il y a une pente descendante, tes fréquences descendent, il y a une montée, permet de monter un peu, mais après, tu veux pas que ça reste à 180, tu veux que ça redescende un peu sur le plat. Puis après, ben, tu sais, mettons, je te dirais une heure avant le finish, là, mettons que tu vises 2,45, ben, autour de 1h40, 1h45, regarde plus la montre, ressenti, puis let's go, tu y vas, parce que là, tu veux pas te laisser influencer par ça,
non,
justement.
Non, c'est ça,
Tu sais, il faut quand même que le ressenti puis la perception d'effort reste un des aspects principaux.
Ouais.
Parce que une bonne journée, ça se peut que tu sois capable de le maintenir bien plus haut que ça. Là, ça serait bien correct aussi. Puis c'est l'expérience qui va
rentrer. Mais tu as quand même l'occasion de... C'est assez long un marathon pour que la dernière heure, Que c'est assez long pour que tu contrôles la première heure et demie.
Exactement.
Puis que la dernière heure, tu fais juste y aller. Puis là, tu vas aller chercher ton plein potentiel et tu accélères dans la dernière heure.
Exactement.
De toute
façon, voilà.
T'es mieux de faire ça que l'inverse.
Ouais, ben c'est sûr que oui. Parce que, tu sais, c'est un
que de prendre une chance en disant, hey, j'ai peut-être une bonne journée, je vais aller over. Puis là, finalement, tu pètes. T'sais, tu n'as pas une bonne
comme
journée.
Je te dis, si tu vas over, puis t'es assez anaérobique après 3 kilos.
C'est ça. Okay.
Puis tu sais, je l'ai expérimenté à Rotterdam. Ouais. Là, tous mes entraînements. Ça allait vraiment bien. J'étais sur le pace. Ouais. Mes fréquences cardiaques étaient basses à mon pace marathon, mon pace 30. J'étais arrivé, comme je te dis, j'ai des problèmes gastro-intestinales. Ouais. Après 5 kilos, j'étais à mon seuil. Puis j'étais comme, fuck, c'est sûr
dans marde, là,
que je suis dans marde, littéralement. Et,
au sens figuré.
Au sens figuré. Donc, ouais. C'était pas une bonne journée. Puis, justement, après 1h15 d'effort, scié complètement en deux, les deux jambes bétonnées.
Ouais.
J'ai arrêté aux toilettes, mais c'était fini. C'était déjà fini. Après ça, j'ai passé un bon 15 minutes à zone 1, zone 2. Puis après ça, j'ai été capable de remonter un peu, mais finalement, c'était peine perdue. Là.
Donc là, juste pour évaluer, mettons, parce que la moyenne de ce pace marathon-là, de ce range-là, c'est 3,45 dans le fond?
3,45, oui.
3,45, ce qui serait peut-être l'objectif. Puis là, 3,45, ça me donne...
2h38.
2h38, que tu avais déjà calculé?
Ben, je l'ai dans la tête, mais c'est pas mal sûr que c'est ça.
Donc, ça, ce serait, à cette étape-ci, de dire, dans cinq mois, au Marathon d'Ottawa, j'aimerais faire en bas de 2h40. C'est un objectif qui, selon le test de lactate qu'on vient de faire... est réaliste.
Ben, selon moi,
ce qu'on a en ce moment,
si on travaille bien ton volume, ton endurance musculaire, je pense que ça serait un objectif réaliste. Si mettons on est, on peut dire en bas de 2h40, mais selon moi, si on travaille bien, puis que tu as des jambes sur 42, il fait pas 30 degrés, il mouille pas assez haut qu'à 20-30 km/h, c'est dans les meilleures conditions, je pense que ça peut se réaliser.
Ouais. Parfait. Absolument. Super. C'est un bon objectif à se mettre dans le
Parce que toi, dans le fond, c'était quoi ton dernier marathon? Tu as fait
2,48 kek, mais au marathon de Québec, avec mais sur la montre à 42,2. 2,46, 45.
Ouais, parce qu'il était un petit peu plus long.
Ouais, c'est ça.
Puis avec des côtes.
Avec des côtes, à Québec, avec des côtes.
Puis avec une gestion peut-être négligée.
Ouais, parce qu'en année, j'ai vu justement.
Ouais,
Guillaume, je le voyais au loin. Je le voyais au loin, puis j'ai. Sur le chemin Saint-Louis, à année, il y a une longue descente où est-ce qu'on avait accès à voir loin en avant de nous. Puis là, moi, je les ai vus eux autres, fait que j'ai décidé d'accélérer à un drôle de moment, là, en descendant. Fait que je me suis comme explosé les quads pour les ramener. Puis là, je suis resté avec eux un peu. Après, avant que Guillaume y accélère. Mais fait que, c'était pas géré comme un pro non plus. Là,
tu vois, mettons. Puis, tu sais, je pense que ça fait pas si longtemps que ça que tu cours non plus.
Non, c'est
fait
ça.
Tu as encore du progrès à faire. Puis, avant de tomber sur ton sweet spot, que ça va prendre beaucoup d'entraînement pour améliorer une minute, 30 secondes, moi, je suis rendu, mettons, là, ben, je pense que tu as encore un an.
Reste du jeu encore.
Ouais, c'est ça, un an ou un an et demi.
Fait que 2,40, objectif officiel pour le marathon d'Ottawa. Parfait.
Let's go. On y va avec ça, on est bold.
Donc, mon threshold pour les courses de threshold. Ouais, mais à quoi ça sert de donner des objectifs? C'est pas des objectifs ambitieux.
J'écoutais, c'est qui? C'est David Roach sur, je sais pas si tu l'as écouté, sur Ritual. Très intéressant comme podcast. Puis il disait justement, si tu vises pas la lune, tu sais, pourquoi
pas? Vise rien, là.
C'est ça, exactement. Ouais. Fait que c'est ça, tempo, allure tempo, on va dire sub-threshold, allure marathon, pace 30. Puis ça, je dis ça présentement parce que toi, t'es quand même un bon coureur. Si, mettons, t'es un coureur débutant, ça se peut que ton pace marathon, ça soit ta zone 2.
Ouais.
Puis ça se peut que ton pace 30, ça soit ailleurs. Mais tu sais, vu que toi, t'es un bon coureur, on te met dans une catégorie un petit peu à part. Ton tempo, on va dire, un petit peu plus rapide que ton pace marathon, ça serait du 3,42, 3,37.
Ouais.
Puis ça, on va viser justement peut-être plus du 170 battements par minute. Au niveau fréquence cardiaque. Et là, on tombe dans ton seuil anaérobique. Ton seuil anaérobique, avec la courbe, moi, je te mets à 3,5 minimum maximum. La littérature nous dit un 4, autour de 4. Avec l'expérience puis avec les nouvelles études, là, on vise plus un 3,5 pour les athlètes entraînés en endurance. Puis toi, justement, ça tombe pas mal dans le 3,5. Si on prenait tes lactates à l'entraînement puis tu dépassais 3,5, je serais comme, t'es plus dans la zone, on va ralentir un petit peu. Ce qui correspond à du 172, 177 de plage puis du 175 de LT2, selon moi. Allure demi, je te mettrais du 3,36 à 3,31. En progression ou bonne journée, mauvaise journée. Ouais. Allure 15 km, je l'inclus un peu là-dedans parce que toi, si on prend ton seuil pile, on dirait que tu es capable de faire 1 heure à 17,5 km/h. Souvent, le seuil, dépendamment des temps de repos que tu vas t'accorder, ben moi, je vais je te donne du pace 15 qui est un peu plus vite. Ouais. Parce que si tu fais, mettons, on va dire, des 3 minutes à pace 15, puis que tu as une minute de repos, ben ton système, avec la minute, il est capable de flusher, de récupérer le lactate, de le flusher, tes fréquences y redescendent. Donc, ouais, tu vas rester quand même à ton seuil. Tu sais, le seuil anaérobique, c'est pas quelque chose de fixé dans le temps. Tu peux aller plus vite si tu as le repos qui vient avec, ouais, si tu as les fréquences cardiaques qui viennent avec. Fait que, tu sais, faut pas penser que c'est juste « Ah, moi, passer ça, c'est sûr que je pète. » À l'entraînement, ben, tu peux te permettre d'aller un petit peu over si justement, tu as la récupération qui est optimale avec. Mettons, tu fais des 3 minutes, 1 minute, puis, ouais, ou je sais pas, tu sais, un kilo avec 2 minutes de repos en chaque. Fait que toi, mettons, ta plage, ça serait 172 à 177 battements. Puis, mettons, j'extrapole ton pace de mi-marathon là, à 3,36, 3,31, puis une allure 15 à 3,30, 3,25 environ. Ce qui nous donne après. Donc là, on appelle ça le VO2 max, ouais, la vitesse critique, etc. Et là, on tombe dans les pace 10, les pace 5 et les pace 3. Et ça, c'est vraiment des extrapolations un peu grossières parce que passer ça, il y a beaucoup de facteurs, ouais, qui rentrent. Ouais, ton, ouais, VO2 max, ouais, ta l'efficacité de ta foulée, ta puissance, ouais, etc. Je t'en donne. Après ça, ben, ça sera à toi de voir au jour le jour si ça convient. Passer le seuil anaérobie, comme je te dis, c'est un petit peu plus complexe. Mais mettons, allure 10, je te mettrais 3,25, 3,20. Allure 5, autour de 3,17, 3,12. Allure 3, je t'ai mis 3,12 à 3,07. Ouais. Avec un 178 et plus
en montant,
en montant au niveau du, ouais, des fréquences. Puis un lactate over de 3,5. Puis une perception d'effort qui va être entre 8 et 10 à ce moment-là. Ouais. Là, ouais. Puis le test me permet d'estimer ta VAM aussi. Puis aujourd'hui, je l'estime à 19,5. Fait que l'objectif, ça serait peut-être de topper le... De
la montée à 20.
Le topper le 20. Ouais, finir le palier
dans 5
20,
mois. Ouais, exactement. Ça serait super. Cool. Vite de même, moi, ce que je remarque de mon expérience d'avoir couru, mettons, dehors, tout me semble un peu vite.
Ouais.
Vite de même, là, ouais, quand je regarde ça, mettons, LT1 à 4,410... J'ai l'impression que c'est parce qu'il n'y a aucune intempérie,
exact,
dans le test qu'on vient de faire.
Exactement.
Fait, ouais, que ici, mettons, si je vais courir au centre des glaces, peut-être que ce serait à peu près,
exact,
comme ça.
Exact. Ouais.
Mais courir dehors, c'est pas ça. Parce que, mettons, je sais, je vois mon threshold, mon seuil anaérobique. Pour monter à 175 fréquence cardiaque, ça ressemble plus à 3,40.
Oui, exactement. Là, fait que, mettons, là, on est dans un 3-4 secondes de plus vite.
Ouais,
là,
c'est ça, exactement, à peu près. Ouais. C'est plus comme ça. Puis mon LT1, 4,20 peut-être. 4,20, ouais, 4,25, okay, mettons, là, okay, je pense. Ouais, dehors, ouais, là, ouais. C'est sûr qu'à Québec, c'est vraiment difficile
conditions
de calculer parce qu'il y a trop
parfaite,
de côtes et tout. Là.
Ouais.
Mais là, étant donné que ça, je pense que c'est selon aucune intempérie puis rien d'extérieur.
Okay, puis tu sais, si... C'est pour ça qu'on corrèle ça avec les fréquences cardiaques,
ouais,
la perception d'effort aussi, parce,
exact,
que tu devrais jamais te fier à seulement une mesure. Tu devrais toujours inclure deux au moins.
Ouais.
Peut-être faire la moyenne des deux, justement.
Ouais,
puis si, mettons, il vente un petit peu demain puis tu vas courir, il fait moins 10.
Ouais, exact.
C'est des choses qu'il faut considérer.
Exact.
Ben, t'es mieux de prendre tes fréquences cardiaques,
c'est ça,
puis de rester dans la zone de fréquence cardiaque. Puis si c'est du 4,20, c'est du 4,20.
Ouais,
puis c'est,
exact,
pas grave. C'est bien,
ouais,
correct,
parce que de toute façon, après ça, quand tu vas arriver la journée de la course... cette différence-là va être contrebalancée par le taper, le carb up,
ouais,
l'adrénaline, les super shoes, tout ça. Puis là, exact, tu vas pouvoir aller rechercher les,
exactement, trucs. Ouais. Puis c'est, mettons, idéalement, je te dirais que si tu fais des séances de vitesse, puis que je t'ai mis mettons pas des vitesses, mais du tempo, puis je t'ai mis ton seuil anaérobique à X temps, ben j'aimerais peut-être mieux que tu le fasses au centre de glace ou peut-être,
ouais,
sur un tapis.
Ouais.
Parce que, tu sais, au Québec, là, on se le cachera pas, là, moi, je me suis entraîné pour plusieurs marathons
l'hiver. L'hiver, c'est vraiment tough. Hein.
Puis, tu sais, aller faire du tempo à moins 15, ouais, avec un peu de glace sur l'asphalte, du tout, c'est correct.
Face.
C'est correct pour ta motivation, pour ta résilience, on va,
ouais,
dire. Mais tu sais, demander au niveau
performance
c'est pas
ouais,
génial tant,
ouais,
que ça.
Ouais.
Fait que tu sais, d'avoir un environnement des fois un peu plus contrôlé pour tes intensités,
ouais,
c'est bien pour tes zones 2. Tu sais, ça peut être dehors,
ouais,
c'est bien correct. Tu sais, des fois, courir 20 kilos sur le tapis, ça peut être,
ouais,
un peu emmerdant, mais pour les intensités dans un environnement plus contrôlé, c'est plus intéressant, je te dirais.
Parfait. Donc là, on a on établit les zones, on établit les résultats. Y a-t-il autre chose que tu veux me parler avant qu'on parle plus spécifiquement du prochain mois?
Non, je te dirais que ça fait pas mal le tour là, au niveau du test en tant que tel. Comme je te disais, on estime ta VAM, on estime tes ondes, tes allures, tes fréquences cardiaques, tes cibles. Même si on prend du lactate éventuellement, on l'a. Ça fait pas mal le tour, je te dirais. Parfait. Là. Ouais, c'est à moins que tu aies des questions sur la définition des ondes en particulier.
Non,
là,
mais, c'est assez clair. C'est assez clair. Puis si vous avez des questions, by the way, vous pouvez me les écrire sur le compte du Pika Podcast sur Instagram. Puis au courant des prochains épisodes, on pourra répondre s'il y a des questions qui sont pertinentes à aborder. Donc, 5 mois. Donc là, mois numéro 1.
Ouais.
Moi, j'ai là, je vais te donner mes paramètres que je veux respecter. Je trouve que c'est vraiment le fun en ce moment parce que je fais 3 sports, puis j'aime vraiment les 3. Puis je trouve que c'est une bonne balance, autant au niveau de ma santé mentale que de ma santé physique. Puis je trouve aussi que ça me permet de faire plus de temps parce que, tu sais, faire 20 heures d'entraînement sur à course à pied, c'est tough en tabarnak. Là, c'est impossible. Là,
même si tu fais 160, je suis pas sûr que tu vas te rendre à 20 heures.
Fait que je veux quand même garder la natation puis le vélo aussi dans cette préparation-là sur les 5 mois. Puis évidemment, plus on va s'approcher ou plus les mois vont être gros en termes de volume de course à pied, plus les autres discipline vont diminuer.
Puis, je vais te donner un petit disclaimer là-dessus déjà.
Ouais, vas-y.
Le cross-training, là, c'est merveilleux. Là.
Ouais, c'est de la bombe.
Tu sais, je veux dire, tu t'entraînes, t'entraînes ton système aérobique, t'entraînes ton cœur, t'entraînes quand même tes muscles. La seule différence avec la course à pied, c'est que t'as pas l'impact, puis t'as pas le geste pur. C'est pour ça qu'on veut en garder de la course à pied, puis on veut garder des intervalles puis des longues. Mais si tu veux faire 10 heures de cross-training, c'est pas donné à tout le monde, mais si tu veux faire 10 heures de cross-training, puis si tu peux te le permettre, ben pourquoi pas? Si tu as une bonne récupération, tu as le sommeil qui va avec, tes fréquences cardiaques sont belles tout le temps, puis que tout va vers le haut tout le temps, pas de blessure. Merveilleux, là, ton système, ton cœur, il voit pas la différence. Là. Ton cœur, il pompe.
Non, exact, c'est ça. Lui, dans le corps, il voit pas ce que tu fais.
Il éjecte du sang, puis il y en a d'autres qui rentrent, puis il l'éjecte. Fait que, peu importe, tes muscles vont faire la différence.
Ouais.
Mais ton cœur, il va se développer. Ton système pulmonaire, ça développe aussi. Ton système cardiovasculaire, même la densité de mitochondries, ça a pas de. Je veux dire, que tu fasses de la course ou pas, ou du vélo, elle va quand même augmenter.
Ouais.
Donc, c'est ça, le cross-training, il faut garder ça en tête que c'est bon. Même la muscu aussi, c'est du cross-training, c'est bon aussi pour le reste. Ouais. Fait que garder ça en tête.
Cool. Après ça, ceci étant dit, en natation, parce que après le marathon d'Ottawa, je vais vouloir me refaire un triathlon. Donc, je veux garder des acquis puis continuer à travailler musculairement dans les autres disciplines. Mais la natation, étant donné que c'est pas, pour moi, c'est vraiment. Je veux pas dépenser d'énergie dans améliorer la natation parce que ça m'en prendrait trop. Tu sais, pour pouvoir descendre de 2 secondes du 100 mètres à mon niveau en natation, ça me demanderait de faire trop, genre nager à tous les jours 2 heures. Puis tu sais, faudrait que je retourne vers ce que je faisais avant. Ouais. Fait que je veux pas mettre l'énergie dans ça parce que je sais que mon gain est trop marginal pour l'effort que ça me prendrait. Ouais. Fait que la natation, je peux la garder pour comme endurance musculaire spécifique du haut du corps, mais surtout pour zone 2 en descendant. Je veux pas faire de natation plus haut que ça. Le vélo, j'aimerais ça garder une séance de seuil par semaine. Puis sinon, on peut rester à zone 2 en descendant. Fait qu'à partir de là, à quoi ça pourrait ressembler notre premier mois, mettons?
Il faut partir étape 1 de on est où présentement?
Ouais.
Tu sais, mettons ton volume hebdomadaire, on est à quoi présentement?
Ouais. En ce moment, je fais 15 heures à peu près d'entraînement par semaine.
Ben, c'est régulier.
Je fais à peu près 60 km de course à pied.
60
km. Fait que 6 heures à peu près. Okay. Puis, un petit peu moins.
Puis dans, mettons,
5 heures de course à pied, mettons.
Je pense pas qu'on va topper du 120 puis 110 kilos, mais dans un monde idéal, tu avais vu ta progression vers le volume total à combien? Maintenant?
J'aimerais ça faire autour de 120.
120?
J'aimerais ça pouvoir faire 120 de course, puis quand on va être rendu à 120 de course, évidemment moins de tout le reste.
Ouais.
Mais 120 de course, mettons, dans les plus grosses semaines du programme.
Ouais.
Fait que j'imagine que si on planifie les plus grosses semaines du programme, ça va être selon un plan traditionnel, la semaine 3 de l'avant-dernier mois, mettons.
Exactement.
Ce serait ça. Exactement. Fait que ça, à 120, 125, puis tu sais, ça, ce serait le peak.
Ouais.
En gardant quand même les autres sports, mais à diminuer
parce que je pense qu'on en discutait, passer ce stade-là, toi, ça t'écœure un peu.
Ça m'écœure un peu, oui.
Puis honnêtement, moi, tu sais, du 120, je performe très bien sur marathon avec ça. Fait que, tu sais, théoriquement, Si on regarde les meilleurs au monde, là, ils vont se taper des 150, 200 kilos. Mais là, c'est des gars de 220, 210 sur marathon, 2 flat des fois. Là, pas encore, mais presque. Je pense que, tu sais, moi, je t'aurais dit, je pense qu'on peut s'en sortir autour de 100 km par semaine, tu sais, dans les grosses semaines. Si on a du 120 et tu peux te le permettre, let's go.
Moi, 100, je pense que, blesser, je pense que 100, je suis très capable de faire ça, tu sais, pas on the regular, mais comme... Sans problème là, d'expérience.
Dans un build-up.
120, c'est comme là, on arrive au upper end. Là,
ouais,
parce
exactement.
Que moi, je suis capable de.
Exactement. De fait que, là, si on part d'un 15 heures avec 60 kilos par semaine, ça représente combien de temps, tu penses?
À peu près 5 heures.
5 heures. Fait que là, ça te fait
30%. En ce moment, mon focus est sur le vélo. Là,
ouais, exact.
Fait que c'est comme 20.
50% de vélo. Genre.
Ouais, 50% de vélo. Fait que 20, 50, 30, genre à peu près.
Exactement.
Là,
fait que tu sais. Je progresserais tranquillement. Mettons, le premier méso, on pourrait partir justement de 15 heures, puis build-upper vers peut-être un 18.
Ouais.
Je pense qu'on est mieux de garder un système à 4 semaines. C'est comme ça que tu fonctionnes normalement?
Ouais.
Bon, 3 semaines de build-up, 1 semaine de down-week. Je pense que les down-week, on pourrait peut-être être autour d'une dizaine d'heures peut-être d'entraînement. Je ne sais pas qu'est-ce que tu faisais dans le passé.
Ça ferait du sens.
Ça ferait du sens. Puis après, ben, peut-être qu'on pourrait mettre entre 10 et 12, dépendamment.
Ouais.
Peut-être plus de vélo, plus de natation, moins de course à pied. Puis, ben, tu sais, comme tu le sais d'avance un peu, qu'est-ce que je vais te dire, là, mais tu sais, commencer avec du pyramidal, voir comment ça passe, parce qu'on n'a pas travaillé ensemble nécessairement de ce côté-là.
Ouais.
Fait que c'est sûr que j'irais pas nécessairement tout de suite dans le polarisé parce que j'aurais un peu peur moi-même que ça te blesse.
Ouais.
Fait que tu sais, augmenter le volume avec un petit peu de en bas du seuil anaérobique. Donc, je partirais d'un. Puis, je pense, je vais anticiper ta question.
Ouais.
80% en bas du LT1, justement.
Ouais.
Avec un bon 15% entre les deux seuils jusqu'à seuil LT2, puis un petit 5% qu'on garde en course à pied principalement, mais même un petit peu sur le vélo, là, tu disais que peut-être pas des trucs de trop haut wattage, mais j'en garderais un petit peu quand même. Genre on parle pas de VO2 max, on parle des 20, des 30 secondes vraiment qu'on va torquer pour accumuler justement tu sais, un 5% de ton volume total dans cette zone-là.
Pas à la course à pied.
À la course à pied aussi.
Okay.
À haute intensité, mais sur des courtes périodes de temps. Fait que, mettons, on parle plus de stride. Fait que, qu'est-ce que j'aimerais faire, puis j'en inclus souvent dans les plans de mes athlètes, c'est une fois ou peut-être deux fois par semaine, mais en commençant avec une fois, des 10 à 20 secondes, montée de côte à 90% de ta VMAX.
Okay.
On prend un long repos, 2 minutes, etc., puis on recommence un peu. Juste pour travailler ta mécanique, ta foulée, même ton économie de course, c'est bon pour l'économie de course, ça a été prouvé aussi au niveau de la littérature. Puis de pas jouer justement dans les longs efforts de VO2 max déjà. Donc, travailler ta mécanique de course à haute vitesse ou à vitesse pace X, mais avec un plus gros volume en bas du seuil anaérobique où on est plus dans les zones de marathon, tempo, etc. Fait qu'un bon 15% là, puis 80% du reste, ou on pourrait dire 75% du reste là, en bas de ça.
Mais en bas du LT2, puis est-ce qu'on fait ce qu'on disait tantôt de comme, OK, on va en mettre aussi 20% de cette partie-là au LT1?
Ben, je pense que oui, honnêtement. Okay. Puis je pense
sur
que
le vélo,
t'es un peu t'es down avec ça aussi.
Ben,
là.
Moi, on dirait que c'est ça que je réalise que. Parce que sur le vélo, je suis capable de le faire.
Ouais.
Vraiment, comme je serais capable de le faire. Il faudrait que je calcule avec mon HRV, il faudrait que je regarde, mettons, les paramètres de récupération.
Ouais.
Mais je suis capable de le faire à tous les jours. Je serais capable de faire 1h30 à LT1 à tous les jours, à 150 de fréquence cardiaque. Sur le vélo, j'ai aucun problème avec ça. Sur la course à pied, probablement que j'aurais de la misère à faire à tous les jours 12 kilos à 4,15. À un moment, probablement qu'après une semaine, je commencerais à sentir des tensions et tout. Sur le vélo, c'est pas le cas du tout.
Fait que, mettons que ton volume serait de 100 km, là, on pourrait peut-être se permettre entre 5 et 10 km à zone 2, à LT1. Là, on peut peut-être se garder comme... dans le premier méso, entre, on va dire, un 4 et 8 km, peut-être dans les longues sorties, parce que moi, je pense que les longues sorties vont être cruciales aussi.
Ouais.
Les augmenter la durée, puis mettre ton LT1, ta
dedans,
zone 2, dedans les
faire
les
des blocs, là, genre, OK, là, on fait un 5 kg LT1.
Exactement.
Puis le 5 kg
pendant ton 20 kg.
Ouais, c'est ça.
Pendant ton 20 kg.
Fait que t'es pas tempo, tu fais juste accélérer.
Exactement.
Une fois que t'es un peu fatigué, t'as les jambes un peu fatiguées.
Okay. Ouais, exactement. Ou ça peut être dans le milieu, puis après ça, t'as un autre 5 kg que tu relaxes. Moi, j'aime bien le diviser aussi. En cycliste, c'est très répandu. Ils vont faire, mettons, 6 fois 15 minutes sur le bike à LT1, puis 2-3 minutes de repos, puis recommence. Mais en course à pied, ça pourrait être des blocs de 2 kilos avec 200 mètres marche ou, ou juste zone 1, puis tu recommences.
Puis dans tout là-dedans. Ça, garder quand même 50% et au moins. Plus de zone 1.
Ouais. Zone 1. Zone. Un 50-60%. Ouais.
Fait que 8 heures de zone 1 dans ma semaine.
Exact. Tu sais, en natation, je pense que ça va de la zone 1.
Ouais. Natation, c'est facile de monter au LT1, par exemple.
Ouais.
Tu sais, mettons, suffit de faire un peu de 4 nages. Fait que c'est. C'est ça.
C'est correct.
C'est facile de le faire aussi, tu sais. Fait que. Sauf qu'en natation, étant donné que les entraînements ne sont pas en continu comme au vélo ou à course, ta fréquence cardiaque, elle redescend tout le temps à chaque fois que tu touches au mur. Fait que c'est comme plus difficile de calculer ça, là, en fait.
Puis tu sais, je pense que l'important, c'est qu'on soit un peu plus paramètre sur la course à pied.
Ouais, exact.
Sur les sports de non-impact, je pense qu'on peut se permettre un petit peu d'essayer.
Ouais.
Puis de voir après un méso, justement, tu sais, tu parles de HRV, tu monitores ta récupération, ton sommeil. Ouais. Est-ce que tu te sens vraiment bien? T'as une bonne récupération ou au contraire, tu sais, ouf, la fatigue, j'ai pas été capable de finir la dernière semaine.
Ouais.
La semaine de repos, je l'attendais vraiment.
On va pouvoir adapter en temps et lieu.
C'est ça. Fait que, tu sais, je pense pas qu'il y a de recette magique. Puis peu importe ce que les physiologistes, ce que les coachs vont dire, c'est un peu de laisser erreur dans le sens qu'il faut que tu essayes des trucs avec ton athlète. Il y en a qui sont capables d'en prendre plus, il y en a qui sont capables d'en prendre moins. Je pense que toi, t'as la chance d'avoir deux autres sports dans ta vie. Fait qu'on peut se permettre d'essayer un peu plus là. Peut-être que quand on va être dans des moments plus polarisés là, avec beaucoup de VO2 max, on va pas en faire énormément, mais avec plus de VO2 max, je pense qu'on va peut-être diminuer cette quantité-là justement pour être sûr que la récupération va être au maximum.
On est capable de le faire, là,
puis, tu sais, va falloir la travailler, ta vitesse, parce que on dira ce qu'on veut, là. Bon, le marathon, c'est en bas du seuil anaérobique, puis cette zone-là est vraiment importante. Mais le VO2 max, c'est quand même une bonne influence sur la performance globale. Puis, si tu regardes en général, c'est les athlètes qui ont les plus gros VO2 qui vont quand même gagner la plupart des courses. Ouais. C'est pas le facteur absolu, mais c'est un des facteurs absolus.
Important, là,
Fait qu'il faut le travailler aussi. Fait que, tu sais, à un moment donné, il va falloir en faire un petit bloc de un peu moins de volume, plus de VO2. À la course à pied, ça serait intéressant. Dans ce temps-là, on va peut-être diminuer ta zone 2, mais dans les blocs de pyramidal, j'ai aucun problème à ce qu'on essaie de monter ça à 20-25%, 30%, peut-être si on est bold un peu, puis que ça va bien. T'sais.
Parfait.
Ouais.
Fait que là, mettons, dans ma semaine, en ce moment... pour les 4 prochaines semaines, ou du moins les 3 prochaines, puis la déload peut-être de façon plus, plus réduite. En course à pied, on parle... Parce que là, comme je disais, tu vas pas me faire mes entraînements spécifiques, mais juste comme la semaine que moi, je puisse les construire, ça ressemble à quoi en termes de course à pied? Deux entraînements d'effort avec une long run, puis le reste en zone 1?
Exactement. Il va y avoir 3 séances, peut-être 4 séances spécifiques, là, je te dirais. Comme je te disais tantôt, pour travailler ta mécanique, puis travailler une vitesse un petit peu plus élevée, des strides, c'est sûr. Ouais. Une séance avec strides à la fin d'une séance.
À la fin d'un jog.
Tu sais, ça compte même pas comme une séance très spécifique. Première séance spécifique, qu'est-ce que je ferais, c'est travailler justement ta zone... tempo 30 kilos jusqu'à seuil anaérobique, avec un peu plus de volume dans cette zone-là. Première séance spécifique. Deuxième séance spécifique.
Fait qu'un genre de combien de kilos, mettons, dans une séance même? Là?
En fait, c'est ça. Là, ça dépend de ton volume total hebdomadaire. Fait que là, si on est à 60, puis mettons qu'on monte à 65-70, je te dirais qu'en volume total, pour une séance en tant que telle, je viserais entre 6 et 8 kilos peut-être dans cette zone, dans cette zone-là. Pour avoir notre 15% là, autour de ça, fait que je ferais le calcul exact.
Un genre de 4x2, là, mettons.
Oui, exactement. Tu sais, 4x2 ou 3x3, peu importe. Je pense qu'en bas de 10 kilos, là, ça serait bien. Après ça, troisième séance spécifique, si on inclut les strides, je ferais une séance en mélangé. Parce que souvent, si on veut travailler plusieurs aspects de l'entraînement, c'est dur de le faire si on fait juste cibler un paramètre à chaque fois. Fait que là, mettons, je voudrais quand même toucher un petit peu à ton VO2. Pas trop, mais juste un petit peu. Fait que j'aurais plus tendance à faire ta troisième séance spécifique avec un pace marathon comme échauffement, mais travailler encore ton tempo, ta zone aérobique au-dessus du LT1, mais entre le LT1 et le LT2. Pace marathon, peut-être, mettons, on dirait un 3 à 5 kilos progressif qu'on va toucher même au pace 30, etc. Puis après ça, mettons un 5 x 400, 6 x 400, okay. un petit peu plus PS10, PS5, ouais. pour aller chercher notre petit bloc de 3-5% de VO2. Ouais. Puis en mélangeant les deux, c'est vraiment bien parce que tu travailles aussi ta capacité mentale à j'ai fait un 5 kg tempo, puis après ça, je vais ouais. me sacrer une volée sur 5 x 10.
Ouais,
c'est
ouais.
plutôt un peu finir fort finalement, ouais. là, comme disait Félix d'ailleurs. Ouais. Fait que ça, j'aime beaucoup ça, ces séances-là aussi. Fait que ça nous permet d'aller toucher un 3 à 5% de VO2 parce qu'on veut l'en garder tout le temps ouais. un minimum quand même là, pour être sûr que ta mécanique soit bonne puis d'aller stimuler cette consommation d'oxygène-là. Et après, la quatrième, ben, ça serait une longue sortie, c'est sûr et certain.
Ouais.
Une longue sortie puis inclure un petit peu de zone 2.
La longue sortie qui représente, c'est-tu le fameux 30% de ton...
De ton volume total.
De ton volume total de la semaine.
Je le calcule pas nécessairement comme ça, pour être honnête, mais ça peut être un
fait que pour
bon
commencer, on parle entre 20 et 25 kilos.
Ouais, mois, exactement. Là, exactement. Genre, pour ouais. commencer.
Pour le pour la premier mois.
Exactement. Puis tu sais, j'irais toucher peut-être une fois le 30, 35, une fois, là, voir comment
dans,
ça
dans
va.
Le mois, dans le premier mois aussi?
Non.
Non, c'est ça, vers, exact. Mais là, on parle de 20, 25 pour commencer.
Exactement. Puis, mais au premier bloc, après ça, peut-être monter à 25-30. Ouais. Puis le mois avant le marathon ou le avant-dernier, peut-être aller toucher dans le 35 pour okay, voir ouais. comment ça va. Puis des fois même, OK, on va pas aller toucher au 35, on va faire un 30, mais on va ressortir une deuxième fois, puis on va aller refaire un 5, ouais. un 7 kilos. On a fait 37 dans la journée, ça s'est bien passé.
Ouais, plus tard dans le programme.
Exactement.
Ouais, ouais, parfait.
Exactement.
Ouais. Fait que moi, ce que je ferais, dis-moi ce que t'en penses. Je ferais l'entraînement tempo. Ben, l'entraînement stride, ça va être après un jog que
ouais,
je vais faire ça. Là.
Ouais.
Puis eux autres, je vais les faire dehors, les jogs, de toute façon. Mais je ferais mon entraînement tempo sur un tapis. Surtout parce que là, c'est l'hiver. Là.
Ouais,
fait que tant
ouais.
que février-mars, ou janvier-février-mars, ça risque d'être un peu ça. Là. Fait que je ferais ça sur un tapis, le tempo. Après ça, l'autre, où est-ce que on touche un peu aux deux, j'essaierais de faire ça au centre des glaces.
Ouais.
Ouais. Fait que tu sais, un genre de 3-4 kilos pace marathon, puis après ça,
ouais.
puncher des 400, des 600.
Ouais. Ouais.
Puis le long run dehors.
Exact.
C'est ça que je ferais en ce
ouais.
moment.
Pour tester ta résilience mentale
ouais, exact.
Aussi.
Exact, c'est ça.
Moi, j'ai même pas, je te dirais, ton endurance mentale présentement. À moins 20, je viens faire ma long run sur le
ben, ça se pourrait que s'il fait moins 20 ou qu'il y a une tempête ou comme hier.
Comme mettons. Hier, mettons, j'étais comme.
Non,
je me suis levé,
c'est
j'ai
ça,
regardé
c'est
dehors, puis moi, puis ouais. ma copine, on est venu ici, puis j'étais comme. Ah,
ouais, je mettrais le football, puis je la ferais le dimanche en checkant le foot. Là. Ça, c'est sûr que oui. Mais si c'est faisable, je vais aller dehors.
Oui, oui, donc clairement.
Cool.
Tu sais, un petit moins 5 soleil, ouais. là, c'est fun de faire des longues dehors. Là.
Ouais. Après ça, premier mois encore par semaine, 2 à 3 natations,
ouais.
ce serait mon objectif.
Ben toi, tu fais du double pas mal tous les jours.
Ouais,
là,
exact. Ouais. Puis c'est une heure de natation, fait que ouais. c'est pas plus long que ça. Je vais pas à la piscine pour moins, mais je vais pas non plus pour plus.
Plus, ouais.
Puis après ça, au vélo, je ferais 4 à 5 entraînements de vélo par
ouais.
semaine.
Ouais.
Fait que ça fait... C'est 7 entraînements, mettons,
ouais.
en tout,
ouais.
qui sont pas de la course à pied.
Ouais.
Puis à course à pied, pour être capable de faire ces séances-là, tu rajoutes les 4 entraînements spécifiques, puis tu mets quoi? Un jog de plus
ouais,
dans
au
ça?
Au moins, je dirais 5
ou 2 jogs?
5 sorties par
5
semaine.
5 sorties par semaine.
Ouais, ouais.
Fait que tu as le jog avec les strides,
ouais.
un autre jog
ouais.
qui va probablement être entre les 2 entraînements d'intensité. Puis, OK, parfait, super.
Fait que dans le fond, tu mets minimalement 48 heures entre tes 2 intensités, minimalement. Puis là, si tu fais un autre intensité à vélo, pas trop dur quand même,
ouais,
mais
ouais.
tu sais, faut bien gérer ça. Puis il faut bien placer ça dans la semaine. Normalement, mettons 48 heures entre la première intensité de course à pied puis la deuxième, puis au moins 48 heures avant la longue.
Ouais.
Fait que tu le vois un peu. Mettons, ça peut être ouais. un système à mardi, vendredi, dimanche
ouais.
ou une affaire comme ça. Là. Fait que là, c'est bien seté comme ça. Puis après ça, tu files les trous.
Ouais.
C'est sûr que, mettons, si tu fais une grosse séance de vélo, puis le lendemain, tu as tes 400.
Mais je risque de pas trop toucher à ça. Là. Le vélo, ça risque d'être plus du maintien.
Ouais,
comme je te disais, du maintien puis du LT1.
Exactement. Ouais.
Plus que du threshold
ça,
ou quoi
ouais.
que ce soit.
Puis ce que je t'ai dit tantôt, c'est comme faire des strides à vélo, finalement.
Oui, exact. C'est ça.
À faire des punches un peu. Puis
ouais.
ça, c'est bien correct. Tu peux les faire même
ouais.
avant une séance intensive parce que ça peut te réveiller aussi.
Ouais, ouais.
Réveiller ton système nerveux un peu, ça peut être une bonne activation. Mettons, tu fais une heure de vélo. Dans ton heure, tu fais 6 fois 20 secondes.
Ouais.
15 secondes où tu vas te mettre un peu plus à bloc. C'est parfait. C'est une bonne activation.
Que, parfait.
Ouais.
Super. Fait que ça fait du sens, tout ça. Puis je me lance là-dessus. Puis on se reparle dans un mois pour faire le follow-up de tout
yes,
ça.
Yes. Fait qu'on parlait de... T'étais à 15 heures?
Ouais.
Fait que là, on build vers le, peut-être le 18.
18 en 3 semaines.
Exact.
15, 16, 17.
Puis on redescend, ouais, pour descendre à 10. Yes.
Super.
On s'en parle
cool.
de ça.
Yes.
Bye.